Très bien, bien bonjour à tous, merci d'être là. Nous allons conduire ce débat. Alors, je précise que Sylvie Miller va assurer la traduction en simultané des dialogues. Et nous avons avec nous Stephen Baxter, auteur que chacun connaît, et François Hammer, astrophysicien que chacun devrait connaître.
Merci.
Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de trouver des points de rencontre entre des personnages représentatifs de deux univers qui pourraient sembler différents. Celui du scientifique qui travaille activement à la connaissance de l'univers, la conquête finalement de cette connaissance, qui travaille en particulier sur la Voie lactée d'une part et sur les galaxies d'autre part, et puis celui de l'auteur qui lui rêve cet univers, qui imagine ce qu'il pourrait être, sachant que ces deux univers ne sont pas complètement étanches, puisque l'astrophysicien est toujours lecteur, même s'il fut en d'autres temps grand lecteur de science-fiction, il n'a pas rompu le contact. Et l'auteur est aussi un scientifique. Et plus que scientifique, il a voulu être acteur, puisque dans sa vie, il a été candidat à une place sur la station Mir, même si ça ne s'est pas concrétisé. Voilà. Donc on va commencer sur ce thème. François Hammer, je vais commencer. François Hammer, vous avez lu de la science-fiction. Vous travaillez à construire une image de l'univers. Est-ce que aujourd'hui, vous pensez qu'il y a un lien, que ces lectures que vous avez eues vont vous conduire là où vous êtes, ou est-ce que c'est un autre monde?
Ben, il est certain que dans la science, ce qui est très important, c'est l'imaginaire. Il ne s'agit pas seulement de faire de la recherche, il s'agit aussi de trouver. Pour trouver, il faut aussi avoir de l'imagination. Et c'est vrai que j'ai certainement pêché une partie de l'imagination actuelle dans des lectures du passé. On sait très bien que la science-fiction a beaucoup influencé la science. Jules Verne est là, est un des précurseurs. Hein. On sait bien, le voyage sur la Lune est arrivé bien après les écrits de Jules Verne. C'est juste un exemple. Donc oui, les scientifiques sont influencés par la science-fiction. C'est une très bonne chose et je crois que la réciproque est vraie. La science-fiction est aussi bien influencée par la science. Ce que je dirais aujourd'hui, c'est que très souvent, il y a de plus en plus en science des questions qui sont posées, qui sont très complexes et difficiles à répondre. Je vais vous donner un exemple. Savez-vous que nous vivons aujourd'hui dans un univers dans lequel, apparemment, hein, d'après ce que nous donnent les théories les plus récentes, on ne connaîtrait que quelques pourcents de son contenu, c'est-à-dire 70% de l'énergie s'appelle l'énergie du vide, on ne sait pas ce que c'est, et 85% de la matière est de la matière sombre. On ne sait absolument pas ce que c'est. C'est un scénario affreux pour de la science-fiction.
Alors justement, Stephen Baxter, est-ce qu'il est vivable, après ce que nous venons d'entendre, d'être auteur de science-fiction, c'est-à-dire d'écrire des choses qui peuvent être remises en cause par l'une ou l'autre découverte?
Effectivement, ça peut être un problème.
In my Zee novels, which were mostly written in the 1990s.
Donc dans mon cycle de romans de Zee, donc qui remonte en fait aux années 90.
The cosmology was the old cosmology before they dreamed up all this dark energy stuff.
Donc finalement, je me suis basée sur toute l'ancienne cosmologie avant qu'il y ait finalement de nouvelles découvertes qui viennent remettre ça en cause.
So don't worry, Stephen. I have made myself some paper on the old cosmology, which are wrong too.
Ne vous inquiétez pas, Stephen. J'ai moi aussi écrit des articles à une époque basés sur l'ancienne cosmologie qui sont plus du tout valides aujourd'hui.
I think the serious answer is that as new discoveries are made, as new hypotheses are formulated.
Donc finalement. Les choses évoluent au fur et à mesure qu'on fait de nouvelles découvertes et de nouvelles prophéties et c'est perpétuellement en mouvement.
There's more material for science fiction. Because science fiction is really about how it feels to live in such a universe.
Et donc finalement, ça alimente la science-fiction, mais la vraie matière de la science-fiction, c'est finalement de se dire comment est-ce que les individus se sentent dans cet univers-là.
So now we have to accept that we don't live in a universe in which a big crunch will happen. It will be a big rip instead of living in the universe.
Donc finalement, il faut accepter l'idée que on habite dans un univers où il n'y aura pas le fameux big crunch.
Big crunch.
C'est le big crunch en fait.
Big crunch,
mais qu'en fait, on est plutôt dans un univers de big expansion. Maintenant on sait ça, ça peut changer après.
And you might think it's a long way off and makes no difference, but it does philosophically.
Oui, en fait, on peut penser que finalement ça crée grosse différence, mais finalement c'est on s'adapte et l'écrivain le prend en compte et continue d'écrire.
Yeah, because it with a big crunch, there were models for how computing could continue forever. So in theory, mind could continue forever.
Oui, donc dans l'univers du big crunch, finalement, on avait des ordinateurs et l'esprit qui pouvait tourner à titan et ternam.
But now with the big rip, as I understand it, those models have all gone away, so there will be an end to computing, an end to mind.
Voilà, et avec le big rip, en fait, c'est l'inverse. On sait qu'il peut y avoir une fin et que il faut envisager dans les futurs cette fin qui peut arriver.
Which does mean that one day all my books will be out of print.
C'est pourquoi finalement tous mes livres devraient être épuisés.
Alors, nous avons évoqué tout à l'heure, et on va y revenir, je ne dirais pas un fait nouveau, parce que pour qu'il y ait fait, il faut qu'il soit complètement sûr, qu'il soit vérifié. Ce n'est pas encore le cas, et je parle des neutrinos qui auraient été détectés à une vitesse supérieure à celle de la lumière. Mais ce qui me semble intéressant, c'est que le doute lié à cette idée existe maintenant. Et je voulais savoir en quoi ce doute change les choses, à la fois pour le scientifique et pour l'écrivain de science-fiction. Donc pour les scientifiques d'abord.
En fait, ce dont vous parlez, c'est cette mesure qui a été faite effectivement par une équipe franco-italienne, donc de la mesure de la vitesse des neutrinos. Les neutrinos sont des particules extrêmement peu massives pour lesquelles on a pu effectivement mesurer leur trajectoire sur une distance de l'ordre de 40 km. Et c'est quelque chose, on a des instruments assez précis pour pouvoir mesurer effectivement leur vitesse. Apparemment, la vitesse dépasserait celle de la lumière. Alors, il faut faire attention aussi, c'est une mesure, donc toutes les mesures doivent être vérifiées. Celle-là a été beaucoup vérifiée, certes. Pour l'instant, il y a encore des doutes sur la validité de la mesure. C'est-à-dire que je ne serais absolument pas surpris s'il y avait une remise en cause de cette mesure. En particulier, c'est lié, un des questionnements, c'est qu'ils ont utilisé des satellites géocroiseurs pour relier les temps, relier les horloges. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est complètement trivial. Si c'était vrai, voilà, je crois que j'ai assez insisté sur le « si c'était vrai, ça aurait une conséquence quelque peu fondamentale, parce que c'est l'ensemble de la physique que nous connaissons, en tout cas de la relativité générale, qui disparaît. C'est pas la peine de se dire, elle disparaît. La relativité générale peut s'interpréter très simplement dans un univers qu'on appelle un objet mathématique qui est connexe, dans lequel connexe, ça veut rien dire d'autre que quand vous avez deux points dans l'univers, vous pouvez les relier l'un à l'autre, par un trajet qui est dans l'univers. C'est donc un objet mathématique simple. Et à partir du moment où vous faites cette hypothèse que vous ne pouvez pas aller plus vite que la lumière, vous fabriquez l'univers que nous connaissons, éventuellement en expansion. Donc une telle mesure, si vérifiée, ferait écrouler, je dirais, l'ensemble de la physique depuis le début du XXe siècle. Petite conséquence.
Petite conséquence, oui. Mais en même temps, ça ouvre un formidable espace de liberté. Alors justement, Stéphane.
Yes, it does. But I think, an immediate reaction would be, oh, great, warp drive is possible, like in Star Trek.
Donc voilà, la première réaction de l'écrivain de science-fiction, c'est de dire, oh, chic alors, finalement, maintenant, le warp drive, le voyage à la vitesse sublimique, est possible.
But I think I do like to try to write out what's known as hard SF. So it's sticky to physics as we know it.
Donc j'aime beaucoup écrire de la hard SF et donc vraiment m'appuyer sur la physique telle qu'elle existe.
But that doesn't mean you can't go beyond and speculate and extrapolate and push beyond boundaries in some ways.
Et en même temps, j'aime en m'appuyant sur cette physique essayer d'aller au-delà et d'extrapoler. C'est le travail d'écrivain de SF.
I think I feel a bit concerned about general relativity crushing to the ground completely.
Et en même temps, je suis un petit peu inquiet si on dit que la théorie générale de la relativité s'effondre, ça m'inquiète un petit peu.
In terms of fiction, anyway, I prefer, you know, space warp models like Alcubierre, where you surf a wave of space time.
Oui, donc en fait, je préfère moi les modèles de l'écrivain où je vais surfer sur effectivement la vitesse de la lumière pour gagner du temps, mais voilà, je veux que ça reste un travail d'écrivain.
On the other hand, as a sort of fan of science, I do like it when you discover some fact that proves that everything you thought was true is wrong.
Et en même temps, le scientifique qui est en moi aime que une nouvelle découverte arrive et ouvre de nouveaux horizons et remet en cause ce qu'on connaît déjà, parce que du coup, ça ouvre un espace de recherche nouveau et c'est aussi un challenge très intéressant.
Yeah, another good example is the exoplanets, the planets of the stars.
Alors, un des exemples, par exemple, qu'on a actuellement, c'est toutes les exoplanètes qu'on est en train de découvrir autour des étoiles.
And the first they discovered is a huge Jupiter-sized planet orbiting impossibly close to the Sun, where nobody thought it would be according to everything we knew about planetary formation.
Oui, et donc, par exemple, la première exoplanète, c'est une espèce de grosse planète de la taille de Jupiter, tournée autour d'un soleil, là où on n'aurait jamais pensé qu'elle serait, et on l'a découverte.
So once again, you boys had to go right back to the drawing board and start again. But it's great, isn't it? It's great. It promotes creative thinking and a better understanding of the end.
Et donc finalement, vous scientifiques, ça ouvre de nouveaux horizons et c'est absolument génial de pouvoir accéder à toutes ces choses nouvelles et pouvoir rechercher encore. Vous avez aussi pour prendre le challenge.
So this is for the positive part.
Yeah.
But be careful, there is also a negative part. We have to be very clear about science, because actually, for almost one century, slightly one century, we are fighting against mysteries we don't understand. So I have to mention that.
Donc ça, finalement, c'était l'aspect positif, mais il y a aussi l'aspect négatif, c'est-à-dire que depuis plus d'un siècle, les chercheurs se battent avec des mystères qu'ils n'arrivent pas à comprendre et à résoudre.
So let me put one, that is the fact that most of the matter is under the form of dark matter. So just to understand this, physician, not astrophysician, physician have built a gigantic collider. This is the LHC,
okay.
Which is near France and Switzerland, just to measure new particles, massive, massive particles.
Et donc, en fait, pour comprendre ça, il y a tout le problème de la matière noire, une matière qu'on ne connaît pas, et donc les physiciens ont construit ce fameux anneau géant pour finalement, le
LHC, c'est
Large Hadronic Collider. Large Hadronic Collider, donc c'est une espèce de... Donc, on va faire tourner des particules à des vitesses extraordinaires, on les fait entrer en collision et on examine ce qui se passe.
Alors, je vous donne un tout petit peu moins de travail, je vais continuer juste en français,
voilà,
très rapidement. Je suis désolé, je n'aurais pas dû faire ça. Non, ceci pour vous dire qu'aujourd'hui, on ne sait absolument pas de quoi est fait cette 85% de la matière de l'univers. Ça fait depuis 1936 qu'on a ce problème. Ouais, ça date. De plus en plus, on se pose des questions sur la réalité de ce problème. Est-ce que c'est un vrai problème ou est-ce que c'est une erreur de se poser ce problème? Est-ce qu'il y a d'autres façons? Donc certains physiciens, par exemple, se posent la question, si par exemple la gravité ne serait pas modifiée. Hein, je ne suis pas part dans ce débat moi-même, parce que je pense qu'il y a des erreurs un peu partout, mais actuellement, la physique et l'astrophysique, par définition, sont loin encore d'être arrivés à des sciences que j'appellerais exactes. Hein.
Alors, au-delà de cet exemple, ça nous amène aussi à regarder quelle est l'influence de la science dans le problème. L'influence de la science sur l'écriture, l'influence des connaissances et des recherches qu'a pu faire Stephen sur son écriture. De quelle manière, Stephen, conçois-tu ton écriture comme moyen de prolonger la recherche scientifique?
So
different writers will give you different answers to that question.
Et donc en fait, il peut y avoir différents auteurs donneraient des réponses différentes à cette question.
I've got a science background myself. I've got a doctorate.
Donc en fait, moi personnellement, j'ai un background scientifique avec un doctorat.
So when there's new science coming along, like say the new cosmology, or something that's new to me, like the interior of a neutron star. So it's fairly old models, but it was new to me.
So
it inspires some story ideas, and the story is really about what does it mean to live in such a universe? What would it be like to live in such an environment?
Et donc pour moi, quand je vois ces nouvelles découvertes arriver, automatiquement ça m'évoque des idées du genre qu'est-ce que ça doit faire d'habiter dans un univers à côté d'une étoile à neutrons, ou comment les hommes, qu'est-ce qui doit se passer là, et j'ai envie de le décrire.
And I think the neutron star is a good example, which I used in my novel Flux.
Et donc par exemple l'étoile à neutrons, c'est un très très bon exemple que j'ai utilisé dans mon roman Flux.
And in there, the interior of the neutron star is, it's an exotic, but it's a structured environment with a crust, different kinds of liquids, magnetic forces, and so on.
Par exemple, à l'intérieur d'une étoile à neutrons, c'est un espèce d'environnement assez exotique, assez étrange, avec une espèce de coquille, puis différentes couches, finalement liquides, un peu centre. Et avec des gravités différentes, des jeux de gravité.
Yeah. So it's a kind of structured environment, like a world, entirely alien to the world that we live in.
Et donc cette espèce de monde donc assez structuré, assez hiérarchisé, est totalement différent du monde dans lequel nous vivons.
But there are analogies. There is a kind of weather. There are star quakes, a bit like earthquakes analogously. So you can imagine life living in that, feeding off the energy flows.
C'est un petit peu comme la Terre avec le tremblement de terre, avec des phénomènes. Là, on peut imaginer à partir de ces phénomènes-là une vie qui se déroulerait et voir comment cette vie se serait répandue et pourrait évoluer.
So in Flux, I tried to get the science of the neutron star right as far as I could, but all the details of the life are made up by me.
Et donc dans Flux, par exemple, j'ai essayé de prendre en l'état les théories qui existaient pour décrire l'univers, mais après, tout ce qui concerne la création de la vie que j'y ai mise et l'intrigue, c'est de la création de science-fiction, c'est de la création d'auteur.
Yeah, and then the interesting thing is to find a story. What would it be like to live in such an environment? What kind of problems do you have? And so on. So I'm using scientific models really to I'm putting humans or human-like beings in them to explore a new part of the universe.
Et donc finalement pour moi le plus intéressant c'est de partir des modèles scientifiques qui vont me donner des pistes pour construire des univers, mais le plus intéressant c'est de faire évoluer des personnages, d'éventuellement d'y mettre des humains et de créer des intrigues à partir de là.
Alors peut-être pour donner un petit peu une idée de ce que sont les étoiles à neutrons. Les étoiles à neutrons, en fait, sont les résidus de l'explosion d'étoiles beaucoup plus massives que le Soleil, typiquement entre 4 fois à 8 fois la masse du Soleil. Ces étoiles, étant plus massives, vont allumer des réactions thermonucléaires, comme dans notre Soleil d'abord, transformer de l'hélium en hydrogène. Hein. C'est la bombe H, hein, vous connaissez tous. C'est quand même assez énergétique, vous êtes d'accord ? Et puis, en deuxième, ce qui se passe lorsque vous avez suffisamment de matière, c'est l'objet a suffisamment de gravité en son cœur, à la différence du Soleil, il va allumer des réactions d'hélium se transformant en carbone. Hein, c'est-à-dire, on va commencer à faire des fusions. Le Soleil ne va pas pouvoir le faire, il n'est pas assez massif, il va finir sa vie en naine blanche. Ces étoiles plus massives, elles vont le faire. Ce qui se passe, c'est que c'est des réactions qui sont extrêmement instables. Bon, thermonucléaire, c'est déjà instable, hein, là, c'est encore plus instable. Tellement instable que lorsque vous allez même vers le cycle du fer, des éléments de plus en plus lourds, vous allez vous retrouver à faire ce qu'on appelle une supernovae, explosion littérale de l'étoile. L'étoile explose complètement, enrichit le milieu en éléments lourds. Nous-mêmes, nous sommes poussière d'étoiles. Hein. Nous venons de ça, nous venons de ces supernovae.
Mais ce n'est pas tout dans l'histoire. Il y a énormément de matière qui est éjectée dans le milieu interstellaire et il reste un noyau au cœur et qui, lui, il est comprimé. Deux types d'objets peuvent être créés. Trou noir. Hein, là, cette fois, vous voyez rien. Hein, la lumière n'a pas à ressortir. Ou étoile à neutrons. Une petite cuillère de matière d'une étoile à neutrons, une petite cuillère, hein, c'est la masse de la Terre. C'est pour vous donner toutes les ordres de grandeur. Il vaut mieux pas vivre là, hein, la gravité, vous n'êtes pas aplati, c'est pire. Vos atomes sont déchirés. Hein.
Et alors, dans cette simple remarque que vient de faire François Hammer, il y a le germe de la question que j'allais lui poser. Parce que là, il y a l'imagination. On allait plus loin en se disant, il vaut mieux pas y être. Et là, bon, parce que quelque part, quand même, ce sont des phénomènes qui sont étudiés, qui sont réputés vérifiés, mais il y a en commun avec la démarche de l'écrivain, la nécessité d'imaginer les choses. Parce que, contrairement à des sciences, immédiates, comme la physique de table, en quelque sorte, où on peut procéder à des expériences, où on peut essayer de reproduire. Là, on a des phénomènes pour lesquels il est très difficile. On peut observer, c'est comme en géologie, on peut observer, on ne peut pas procéder à l'expérience elle-même. Donc, est-ce qu'on n'a pas une démarche également d'imaginaire, en raccrochant bien sûr cet imaginaire immédiatement à l'observation, tout comme chez un écrivain comme Stephen Dexter qui se réclame de la hard science, il y a cette volonté de ne pas s'écarter de ce qui constitue le corpus scientifique du moment.
Alors, effectivement, si je peux rebondir un peu justement dessus, parce que c'est lié aussi à votre œuvre, hein, Stephen Dexter, c'est la question du temps. La question du temps est une des questions en science et je crois en science-fiction qui excite beaucoup de monde, enfin pour dire les choses, hein, telles que j'ai remarqué que c'était vrai aussi dans votre œuvre en particulier. Mais ce que je voulais aussi vous dire, c'est que moi je fais ça tous les jours. Ah, excusez-moi. Je vais vous expliquer en deux mots, hein, et avec une image qui se trouve justement juste derrière, vous allez voir. En fait, bon, moi, mon travail, en tout cas ma passion, c'est d'essayer de comprendre comment les galaxies comme la nôtre se sont formées. On est en train d'y arriver, on se rapproche de cet état-là. Pour ça, ce qu'on a besoin, c'est effectivement de voyager dans le temps. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va observer des galaxies avec des très grands télescopes, je ne cache pas, c'est des grands télescopes. Hein. On va observer des galaxies lointaines. Ces galaxies lointaines, leur lumière a mis 6 à 8 milliards d'années pour voyager, pour nous arriver. Mais du coup, ce qu'on voit d'elles, c'est la lumière. On les voit comme elles étaient il y a 6 à 8 milliards d'années. L'univers ayant une certaine homogénéité, elles sont équivalentes aux ancêtres de notre galaxie, la galaxie d'Andromède, notre grande voisine, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'archéologie. Alors, quand vous aurez le temps, je vous conseille d'aller voir ce panneau qui est là, où c'est marqué « Évolution des galaxies ». Vous avez le panneau du haut qui vous montre les galaxies aujourd'hui. Et ce qu'on a réalisé, c'est avec le télescope spatial, c'est les galaxies comme elles étaient il y a 6 milliards d'années. Donc, du voyage dans le temps, on le fait, on vit dedans, en fait. Ça ne nous aide pas forcément à vivre très bien sur Terre. Hein, ça nous fait un peu de choses. Donc, la question que je vais vous poser, Stéphane, c'est à quel point vous avez justement cette fascination pour le voyage dans le temps, parce que j'ai cru comprendre que c'était un point important pour vous, et comment vous voyez ça justement au niveau de la relation avec la science?
Well, I think time travel, well, in a sense, as you say, you're doing time travel, but the galaxies are these.
Donc, finalement, en essence, ce que vous dites, c'est voyager dans le temps en regardant les galaxies.
And even with the models of the future, the big grid and the cosmology.
Et c'est pareil, quand on fait des projections sur la cosmologie, etc., c'est aussi un voyage vers le futur, en regardant le modèle évoluer avec des simulations informatiques, c'est aussi un voyage dans le temps vers le futur.
I think there is a big overlap between the fictional imagination and the scientific imagination.
Et donc en fait, il y a énormément de points de rencontre finalement entre l'imagination du scientifique et l'imagination des films de science-fiction.
Because many theories have a kind of storytelling quality. You tell the story of the neutron star as a story.
Et donc finalement, on se rend compte que chez les scientifiques, et là, tel que vous venez de le faire en expliquant l'histoire de ces étoiles à neutrons, vous avez raconté ça comme une vraie histoire, avec une espèce de vision qui pourrait être une vision d'écrivain. C'est une histoire que vous avez racontée.
It's a scientific theory, it's a model which can be tested and maybe disproved one day. Mm-hmm.
Et donc en fait c'est une théorie scientifique et un modèle qui peut être prouvé ou infirmé un jour, on ne sait pas.
Yeah. But it is a story, we are a storytelling species and we have this instinct.
Et en fait nous on est une espèce, les humains, une espèce qui aime raconter des histoires. Et que ce soit des scientifiques, des écrivains, c'est quand même.
And the kind of thing that intrigues me about let's see your evolution of the galaxies.
Et en fait, moi, ce que ça me voit quand je regarde cette évolution des galaxies,
is to go one step beyond and say, well, what about life and intelligence? How habitable was the universe for life 6 billion years ago?
Voilà. Et donc moi, je fais un pas de plus en tant qu'écrivain de science-fiction et je me dis, ben voilà, quelle a été la vie dans ces galaxies? Quelle était la vie là-bas dans ce qu'on voit et qui nous arrive et qui est l'image de quelque chose qui a 8 milliards d'années d'âge? Qu'est-ce qui s'y passait? Qui y vivait et comment?
How habitable will it be in 6 billion years from now?
Et du coup, je projette et je me dis, ben nous, finalement, on va évoluer. Et dans 8 millions d'années, qu'est-ce qu'on sera? Quelles seront les habitudes? Comment les gens vivront? Y aura-t-il encore des gens?
So the science fiction writer's imagination asks questions like, what if we're the first? What if the universe is very young and we're among the first? Or what if the universe is effectively very old and we're among the last?
Et donc, par exemple, l'écrivain de science-fiction se pose la question, est-ce qu'on est les premiers et comment ça va évoluer? Ou bien, est-ce que dans cet univers avec ces galaxies qui ont déjà 1 milliard d'années, etc., est-ce qu'on est plutôt parmi les derniers et qu'il y en a eu d'autres avant nous?
So I think to answer your question about my fascination with time, it's the larger scales of time and the context of our human lives within that.
Et donc moi, ma fascination pour le temps, c'est finalement une fascination...
On va voir des étoiles tout de suite.
On part sur
un talent inné. On part des étoiles tout de suite.
Donc en fait, ma question et moi, ma fascination pour le temps, c'est une fascination pour ces espèces d'échelles de temps immenses, au milieu desquelles je me dis, voilà, en un instant T, l'humain, l'individu, qu'est-ce qu'il fait, comment il évolue et vers où il va.
And really, science fiction is about what it's like to live in a universe in which such evolutions on a cosmic scale take place.
Et donc pour moi, écrivain de science-fiction, j'imagine en regardant toutes ces galaxies, une réflexion sur voilà, l'humain sur cette échelle cosmique, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça va être.
Alors, je peux peut-être rebondir immédiatement justement sur cette question. En fait, on observe ici les galaxies dans le passé, hein, telles qu'elles étaient dans le passé, et on s'aperçoit en fait, vous regarderez, je vous conseille de regarder après les images, on s'aperçoit en fait que la majorité des galaxies dans le passé n'étaient pas du tout comme elles sont aujourd'hui, c'est rien de très choquant. Il y a 6 milliards d'années, c'était juste avant la formation du système solaire, notre Soleil et des planètes, hein, 4,5 milliards d'années pour la Terre, 5 milliards d'années pour le Soleil, et les galaxies à cette époque-là étaient en fait en collision. Elle est en train de se refabriquer. Il se trouve qu'une des galaxies qui n'a pas fait ça, il y a une galaxie qui n'a pas fait ça. C'est la Voie lactée, c'est nous. Et en fait, c'est quelque chose qu'on est en train de démontrer justement, que la Voie lactée, apparemment, elle a une vie très calme depuis 10 milliards d'années. 10 milliards d'années, tenez-vous bien quand même. C'est une galaxie qui n'a pas eu de grosses collisions, donc dans laquelle il n'y a pas eu, s'il n'y a pas de collision, il n'y a pas eu d'énormes phénomènes énergétiques, y compris en provenance de la fusion des deux trous noirs, parce que quand deux trous noirs de deux galaxies se rencontrent, ça fait des dégâts. Vous pouvez l'imaginer. Hein. Et on soupçonne peut-être qu'il y a un lien en fait entre cet aspect causal, d'une part, et le fait que nous sommes là. L'existence de la vie, justement. Il y a peut-être moins de vie dans des galaxies qui ont eu des phénomènes très énergétiques. Deuxième point, Stéphane, tu parlais de l'avenir. Bah, l'avenir, moi, je vais vous donner quelques petits éléments, si ça vous intéresse. Alors, deux. Le premier, actuellement, aujourd'hui, nous sommes en train d'avaler une microscopique galaxie qui s'appelle Sagittarius. Alors vous inquiétez pas, il n'y aura pas de drame. C'est l'équivalent d'un moustique sur votre pare-brise de voiture. Hein.
Ouais,
deuxième, les nuages de Magellan dont vous avez entendu parler, tous je pense, hein, dans l'hémisphère sud. Pour ceux qui ont voyagé dans l'hémisphère sud, c'est les joyaux du ciel de l'hémisphère sud. Les nuages de Magellan, on vient de refaire une mesure de leur vitesse. C'est récent, ça a 2 ans. ils tombent vers nous à la prodigieuse vitesse de 1 million de kilomètres heure, et ils tombent tellement vite qu'en fait ils vont s'échapper, probablement. Et dernier point, dernière information, hein, c'est un peu les last news du cosmos, dernière information, dans 3 à 7 milliards d'années, c'est pas précis, hein, je vous expliquerai pourquoi c'est pas précis, on rencontre notre grande copine, la galaxie Andromède, qui est un peu plus grosse que nous, en fait elle est deux fois plus grosse. Et alors là je ne vous cache pas que par contre, pour le phénomène énergétique, ça va l'être, ça je vous garantis, et je ne peux pas vous dire où va tomber le soleil. Hein, parce que la raison pour laquelle c'est pas précis, c'est on ne connaît pas ce qu'on appelle, on connaît bien la vitesse d'approche des deux galaxies, hein, comment elles se rendent comme ça, mais on ne connaît pas la vitesse tangentielle. On ne la connaît pas du tout. Donc 3 à 7 milliards d'années. Le Soleil peut se retrouver dans plein d'endroits, il peut retomber dans l'énorme galaxie elliptique que ça va former, hein, ça va faire une galaxie elliptique à la fin, il n'y a pas de gaz. Et l'autre possibilité, c'est qu'il tombe dans le trou noir central, le nouveau trou noir central, ça c'est pas gay, hein, pas une bonne nouvelle, mais n'oubliez pas que le Soleil à ce moment-là est une géante rouge, hein, à peu près. Hein. Et puis, ou alors il peut même partir dans l'espace intergalactique. Ouais. Donc voilà les quelques nouvelles du front.
Donc là, j'en reviens au thème. J'ai l'impression finalement qu'il y a un dialogue qui s'établit avec un univers dans lequel il y a, on parlait tout à l'heure de 15% d'univers connus et de connaissances, et puis finalement des pans immenses qui sont laissés à l'imagination, qui sont laissés à l'écrivain pour qu'il essaie de les meubler, enfin pour qu'il trouve cette liberté de créer. Est-ce que c'est une bonne analyse ou pas, Stephen? Oui, la question était, est-ce que le scientifique est là pour établir le cadre, un cadre qui aujourd'hui recouvre 15% donc, des choses, et l'écrivain, lui, a les 85% qu'il essaie d'imaginer de manière cohérente.
Well, perhaps, I mean, the 85% unknown is a big playground.
Oui, effectivement, les 85% restants, c'est un joli terrain de jeu.
Again, in my Zeely books, I have life forms of dark matter.
Et donc, par exemple, dans les livres du jeu de Zeely, j'ai des êtres qui sont formés justement de cette fameuse matière noire.
And the secret history of the universe is really a war between creatures of dark matter and normal matter.
Et en fait, il y a une guerre qui fait rage entre la matière normale et la matière noire.
And you can take that further. You can imagine, as I have done actually in my book Exultans, you can imagine every phase of the universe being shaped by life in some way.
Et donc par exemple dans un autre livre dans Exultans, là on a une intrigue dans laquelle on va imaginer chaque étape de la vie de manière différente.
Yeah, so each age feeds on the waste really of the age that went before, never really understood.
Et donc, en fait, chaque âge se nourrit de ce qui reste de l'âge d'avant pour pouvoir évoluer.
So, I think it's not so much filling in the gaps. It's more interpreting and extrapolating and looking for ways to thrill.
Et en fait, il ne s'agit pas tant de combler les vides, mais plutôt d'extrapoler et de créer finalement une forme d'excitation, une forme de passion autour de ça.
I mean, to be honest, your picture of the evolution of the galaxies over there, it looks a bit boring.
Et bon, finalement, pour moi, votre image de l'évolution des galaxies est un peu ennuyeuse.
But when you tell the story of the collision with Andromeda, you think, wow, you know, it's and that's the latent fiction writer in you coming out at me.
Et en fait, bah, finalement, quand vous racontez et vous décrivez l'image, là, je sens la vibration, je sens l'histoire, je sens la passion. Et je sens ressortir l'écrivain de science-fiction qui est caché à l'intérieur du scientifique.
Enfin, pas encore. Justement, pour revenir sur cette image, en fait, vous voyez toutes les galaxies que vous voyez sur la droite dans l'image du bas sont des galaxies qui subissent un peu la même chose que Andromède et la Voie lactée lorsqu'elles vont se rencontrer. C'est justement ces énormes collisions qui vont se passer.
Bon, cette vision, de toute façon, cette vision des vides à combler était une vision un peu provocatrice et caricaturale, parce qu'il y a aussi des remises en cause. Il y a des remises en cause que nous avons connues à un certain moment. L'introduction d'ailleurs de la relativité générale était une remise en cause évidente. On évoquait tout à l'heure, bien avant, en géologie, je suis géologue, on évoquait la révolution qui avait été une des plaques. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, de toute manière, les certitudes des scientifiques, si tant est qu'il y ait des certitudes, les certitudes des scientifiques peuvent être remises en cause. Quand on parle des neutrinos tout à l'heure, c'est un de ces exemples où ça peut être remis en cause. Alors, quelque part, est-ce que le rôle, si tant est qu'il y ait un rôle de l'auteur, de l'écrivain lui-même, n'est pas également d'imaginer que la certitude scientifique soit dépassée, n'en soit plus une, parce qu'il y a eu autre chose. Est-ce que c'est encore de la science-fiction si j'écris en imaginant que la vitesse de la lumière n'est plus une constante et une limite? Ou est-ce que je suis sorti complètement de la science-fiction pour écrire une littérature imaginaire pure? Et je pose la question aux deux successivement.
I think there's maybe a better example of the role of fiction.
Oui, effectivement, je pense que c'est un meilleur exemple du rôle de la science-fiction.
Which is Neanderthal man, you know, the earlier primitive version of humans who died out 35 years ago.
Donc, ça va au-delà du premier homme, donc qui est mort il y a des milliers d'années.
So science, respectable science, can give us an outline of their lives. Bones, how they lived, their tools, and so on.
Alors, par exemple, voilà, la science nous permet de regarder, d'essayer de voir à travers leurs os, qu'est-ce qu'ils avaient pu manger, comment ils avaient pu vivre, quel était leur environnement.
Yeah, I think the role of fiction is to kind of breathe life into that framework.
Et le rôle de la science-fiction, ou de la fiction en tout cas, c'est d'apporter de la vie en mettant en mots et en images réellement la vie qu'ils avaient pu avoir, alors que le scientifique, il va répertorier, imaginer la science-fiction, mais vraiment en vie. Cet homme qui a existé, on le fait revivre dans l'écrit.
Yeah. We want to know how the Neanderthals felt and behaved. Did they love each other? Did they mourn their dead? And so on.
Et donc, par exemple, l'écrivain de science-fiction va prendre ces hommes-là qui ont été découverts, donc les hommes préhistoriques, et va essayer d'imaginer ce qu'ils pouvaient ressentir, comment ils vivaient, avec qui, est-ce qu'ils avaient des familles.
You know, you can make guesses from the archaeology, but really the best way to explore how it might have been is plausible fiction set within that framework.
Et donc, bien évidemment, on va faire des suppositions à partir de l'archéologie, et l'écrivain de science-fiction essaye de faire les suppositions les plus plausibles à partir des éléments scientifiques dont il dispose.
So there was a fantastic novel called The Inheritors by William Golding, published in 1950.
Et donc, dans les années 90, il y a eu un superbe roman, The Inheritors, donc les héritiers, par William Golding,
who told the story of the Neanderthals from the Neanderthals' point of view as they encountered modern humans.
Et donc, en fait, il raconte l'histoire de Néandertaliens avec leur point de vue au moment où ils ont rencontré les hommes, donc les descendants de.
And the Neanderthals in the book had their own deep relationships, but they were disrupted by the humans, who seemed to them like magicians, maybe.
Et donc ils avaient une forme de société, une forme de relation entre eux, qui en fait a été détruite par les humains, qu'ils voyaient en fait comme des magiciens, comme des êtres très différents d'eux.
And if you read modern reconstructions of how the Neanderthals might have thought and felt.
Et en fait, donc ils essayent d'expliquer comment ces Néandertaliens ont pu, ce qu'ils ont pu ressentir, et comment ils ont pu évoluer face à cette rencontre-là.
It's actually more like the fiction than some conventional science in a way, because you have to guess so much.
Donc finalement, c'est effectivement plus de la fiction que de la science, puisque l'auteur, quand il écrit ça, il essaye de deviner.
For instance, made of the Neanderthals, they made the same kind of tools for hundreds of thousands of years.
Et donc peut-être que les Néandertaliens ont fabriqué les mêmes sortes d'outils pendant des milliers d'années.
So maybe to them tool making was a bit more like maybe like driving a car is to us. You know, when you forget where you're going, you do it automatically.
Et peut-être que finalement, cette fabrication d'outils qu'ils avaient tellement l'habitude de faire, c'était un peu comme nous quand on conduit nos voitures sans y réfléchir. On a l'habitude de les utiliser, on ne se pose plus du tout de questions dessus. C'est des outils de la vie de tous les jours.
So that's only one step away from functional thinking, really. But it's the only way, probably, we can ever approach how it was to be a Neanderthal.
Et donc, c'est vrai que c'est une vision assez littéraire, mais c'est aussi une façon d'approcher la vie telle qu'elle avait pu être à cette époque-là.
So I certainly think that's a use of fiction and kind of creative thinking, you know, to flesh out the outline, which is sometimes all the science and business.
Et finalement, c'est une très très bonne façon d'essayer d'imaginer, de remettre en cause, de nous amener sur un autre terrain que la science en étant finalement complémentaire.
Et est-ce que ça peut aller jusqu'au point justement de remettre en cause des fondements scientifiques lourds? C'était un peu ça la question, hein, j'avais cru comprendre.
Well, I don't see why not. In my novel Evolution, I try to tell the story of the rise of the primates through the apes and the humans and beyond.
Et donc, par exemple, dans mon roman Évolution, j'essaie d'explorer l'évolution qu'il y a pu y avoir entre les primates, puis les singes, l'homme, avoir toute une vision sur cette évolution-là.
And in the evolution of modern man, there's a point that the archaeologists call the Great Leap Forward.
Et effectivement, en archéologie, il y a un point au niveau de l'évolution de l'homme qu'on appelle le grand bond en avant.
Which is the point where we suddenly became much more creative with art, better artifacts, all those things.
Et c'est effectivement un point où les primates, d'un coup, sont devenus extrêmement créatifs. On commençait à utiliser des outils, des artefacts, et ça a été un énorme bond en avant en termes d'évolution.
There seemed to have been modern humans living like the Neanderthals did for a long time, and then suddenly changing.
Et donc c'est un petit peu comme les Néandertaliens, quoi. Donc les humains qui ont vécu sur un même standard pendant un certain temps, pendant très longtemps, et qui d'un coup se mettent à évoluer de manière explosive.
So in my novel, I tried to make a guess about why that might have come about, and my best guess was trade.
Et dans le roman que j'ai écrit, donc j'essaye d'imaginer pourquoi est-ce que d'un coup on a eu ce passage brusque, cette évolution brusque. Et la supposition que j'ai faite et donc que j'ai scénarisée dans le roman, c'est d'imaginer que c'est à cause du commerce, hein, de l'échange.
If you think of all the things you need to do to maintain a trading relationship with somebody, you need to know the value of the goods they've got, where they've come from. You need to know the other person's mind to some extent. You may need to lie.
Et finalement, quand vous voulez faire du commerce, vous avez besoin de savoir ce que l'autre sait faire, peut fabriquer, de quoi il a envie, comment il fonctionne, pour pouvoir lui vendre votre propre marchandise, pour pouvoir l'échanger. Et ça fait faire des progrès énormes au niveau de l'esprit.
And so my suggestion was that it was trade, you know, that propelled our breaking forward.
Et finalement, pour moi, c'est effectivement la supposition que j'ai faite dans ce roman, c'est que c'est le commerce qui a précipité le bond en avant de l'humanité.
Since then, I've seen one or two papers which suggest the same thing by the archaeologists.
Et finalement, depuis que j'ai écrit ce livre, j'ai vu passer deux ou trois papiers scientifiques qui avaient abordé la même voie autour du commerce et qui avaient posé ça comme une hypothèse plausible, et donc des papiers écrits par des scientifiques.
I don't think in this case that my book influenced them.
Je suis pas sûr. Enfin, je pense pas que dans ce cas particulier c'est mon livre qui les ait influencés.
But you know, I think they come to the same kind of conclusion from the same evidence.
Mais finalement, je me rends compte que à partir des éléments scientifiques qu'ils avaient, ils ont envisagé comme plausible les mêmes types de conclusions que celles que j'avais envisagées moi.
And let me give another quick answer as well. Sometimes science fiction will come up with concepts and words for things which didn't exist before.
Et parfois, la science-fiction va manipuler des concepts et ajouter des mots qui n'existaient pas avant.
Such as terraforming, for instance.
Par exemple, le terme terraformer qui a été créé par la science-fiction.
Turning a planet like Mars into a planet like the Earth.
Donc, par exemple, transformer une planète étrangère en une planète qui ressemble à la Terre et qui puisse être habitable par des humains.
Which is now studied scientifically. Could we do this? Should we do it? So on. Et donc
le terme est apparu dans des articles scientifiques où on disait, ben voilà, si on voulait terraformer telle planète, il faudrait ci et ci et là. Donc le terme est passé dans le langage scientifique alors qu'il a été créé par des auteurs de science-fiction.
Voilà, on va peut-être tourner vers la salle qui a encore des tas de choses à dire, mais qu'il y a peut-être des questions à poser. On se doutait bien que Georges Bormann aurait envie de poser une question. Il y a d'autres questions. Georges, pose ta question.
Oui, alors moi, c'est quelque chose que j'ai déjà dit dans le débat précédent, c'est qu'il y a deux modes d'évaluation d'une idée. Un mode qui est le mode scientifique et qui est basé sur l'expérience, et un autre mode qui est le mode fictionnel, qui est basé sur la vraisemblance. Ces deux modes d'évaluation sont assez fortement non corrélés. Donc, cela crée une différence de mode de perception assez profonde entre science et mystère.
Je pourrais peut-être le payer encore. Soit François Hammer.
En fait, sur le principe, vous avez tout à fait raison, mais il se trouve qu'il y a des endroits où les choses peuvent se retrouver. Alors, je vais un peu vous donner des exemples. Je crois que la première phrase de l'utiliser est vraiment exactement la bonne. C'est exactement ça. La science, si elle a du sens, c'est si elle est basée sur l'expérience. C'est-à-dire, si vous pouvez faire une expérience et que vous avez à démontrer un fait scientifique et que vous avez à reproduire cette expérience, vous avez fait une démonstration. Exemple, la relativité générale a été démontrée en montrant qu'une étoile, la lumière d'une étoile, était déviée par la masse du Soleil. Et la déviation était exactement ce que prédisait la relativité générale. Ça a été fait juste après la Première Guerre mondiale. Et c'était la preuve. Sans ça, la relativité générale, excusez-moi, on n'en aurait pas fait grand-chose. Donc c'est vraiment fondamental. Ça, c'est le premier point. Là-dessus, vous avez tout à fait raison. Après, il y a aussi une partie de l'imaginaire qui existe aussi en science. Et vous voyez, moi, je vous ai parlé tout à l'heure de la matière sombre. C'est quelque part, c'est inimaginable. Quelque part, hein, de fabriquer soit des particules totalement exotiques, soit de changer la gravitation, enfin, soit de casser toute la physique, dans les deux cas, un petit peu. Je vais vous donner aussi un autre cas. Par exemple, quand vous essayez de montrer quelque chose, et la question, c'est, vous faites d'abord des hypothèses. Normal. Je dirais que l'écrire en science-fiction reste aux hypothèses, c'est un petit peu le sens de votre intervention, je pense. Après, nous, du point de vue scientifique, nous devons avoir la preuve, c'est-à-dire montrer que cette chose peut se faire. Actuellement, je suis en train d'écrire un article, justement, on se pose la question, une question très sérieuse, à savoir si les petites galaxies qui entourent la Voie lactée ne viendraient pas d'une collision énorme qui serait passée dans la galaxie andromède. Ça paraît de la science-fiction pure, ça commence à prendre du sens, ça va prendre du sens si jamais on réussit à montrer qu'un ensemble de faits sont tout à fait concordants. En fait, c'est comme un puzzle, hein. Vous mettez un puzzle, quand vous êtes arrivé à mettre tous les morceaux, ça veut dire que vous êtes arrivé à la preuve. Et sinon, je vous suis complètement, hein, sur cette différenciation, avec ce point de convergence qui est que nous, scientifiques, ben, à un moment, eh ben, on fait des hypothèses. Sinon, excusez-moi de dire des choses, hein, on s'ennuierait profondément. Voilà.
Stephen.
Yes, and I think I'd say in science, the two halves of the question are both there.
Donc, effectivement, bon, en science, c'est vrai que les deux parties de la question sont justes.
In the early days of geology, the first geologists were full of schemes of the world, systems of the world, how the world.
Au premier temps de la géologie, par exemple, les géologistes, les scientifiques de l'époque, étaient pleins d'idées sur les théories de l'époque. Ils avaient une vision du monde qui était liée à leur époque.
So imaginative, but then they realized that they just didn't have enough facts to verify any of these things.
Mais en fait, à un moment donné, ils ont réalisé qu'ils n'avaient pas de faits pour prouver cette vision-là.
So, for instance, the Geological Society in London said, no more systems of the world for a while, we just gather facts, we look at the rocks on the ground.
Et à un moment donné, donc ces géologistes, il y a très très longtemps, se sont dit, bon, on va arrêter de penser en ayant notre vision à nous, à partir de maintenant, il faut collecter des faits pour pouvoir en tirer un modèle.
Yeah. So you have a balance. But later, you need more systems of the world came along, such as famously, continental drift.
Mais après, donc, ils avaient collecté des faits, ils en ont tiré des conclusions, et puis après, ben, d'autres faits sont arrivés qui les ont forcés à revoir leur vision des choses avec toute la théorie de la tectonique des plaques qui est apparue, qui n'avait pas été imaginée avant. Donc il a bien fallu faire un effort d'imagination pour aller chercher d'autres hypothèses à partir de faits qu'ils avaient trouvés.
Yeah. And then research began for evidence to prove that or refute it. So that it goes backwards and forwards.
Voilà. Et donc, comme les modèles ne marchaient pas complètement, il a bien fallu imaginer pourquoi ça ne marchait pas complètement. Donc, on a bien dû imaginer que les plaques étaient peut-être en mouvement, qu'il y avait des plaques. Donc, rechercher d'autres faits qui viennent finalement dire que ces théories-là étaient justes. Donc, il y a bien une part d'imagination chez les scientifiques.
But this is the fantastic thing about the scientific method.
C'est le raisonnement.
Avec une approche du raisonnement scientifique, parce que j'ai entendu beaucoup François, mais preuve. Mais on a aussi la vision popérienne de la chose, c'est-à-dire compléter cette première approche tout à fait rationaliste par la recherche de la remise en question possible. Autrement dit, ce n'est plus la preuve, mais c'est l'absence de la preuve du contraire. Et c'est peut-être le rôle de l'auteur d'introduire toutes ces possibilités de solutions alternatives.
Il y a une autre question.
Oui. Coopération, tout le monde, j'appelle pas ça de la concurrence finalement, j'appelle ça de la coopération. Et c'est peut-être une grande leçon à retenir, cette coopération entre les deux. Voilà. Puis, il y avait une autre question, une dernière.
Je crois qu'il y avait une question derrière.
Il y avait une question là, quelqu'un, j'ai pas vu. Non.
Non, pas d'autres questions.
C'est une. Allez, the last one.
Last but not the least. Oui, c'est clair qu'il y a l'influence existe. Mais enfin, après, à savoir si c'est l'intérêt pour la science, c'est l'astro, hein, pour être précis, qui m'a poussé à lire les science-fiction, ou si c'est. Je pense que le tout. Et je crois que c'était un petit peu aussi, d'ailleurs, selon un peu cette conclusion du débat. Oui, c'est vrai que les scientifiques bénéficient de tous les courants de pensée, par définition. Donc la science-fiction, heureusement, si les scientifiques bénéficiaient pas de la science-fiction, ils seraient obtus. Ce serait dommage. Si les écrivains de science-fiction ne regardaient pas ce qui se passe en science, ce serait terrible, parce qu'on se retrouve avec des domaines complètement déconnectés, bon, ça pourrait pas être complètement inintéressant. Mais tout le monde essaye de déborder tout le monde dans cette affaire-là. Oui, en tout cas, ma réponse, c'est clair qu'il y a un lien. Je continue à avoir du plaisir à lire les écrivains de science-fiction, mais c'est vrai que je le fais moins. Je trouve aussi beaucoup de plaisir à lire des
articles, hein, comme ceci, par exemple,
dans lesquels, bah, en fait, il y a des fois des intérêts. On a l'impression de lire un peu de la thèse de science-fiction. Alors, la différence, c'est tout écrit en anglais. Donc, moi, j'écris tout en anglais. Hein, bon, c'est comme ça. Mais c'est...
Stéphane aussi.
Oui, oui, j'imagine que Stéphane écrit tout en anglais, puisque je ne parle pas français. Et donc, oui, la réponse est positive. Et je trouve que c'est vraiment une très belle conclusion de dire que, bah, comme toute activité humaine, de pensée en particulier, bah, les unes ont besoin des autres. Oui.
Voilà. Un mot de la fin pour Stéphane.
Oui.
Yeah, I think one thing that's changed in well, since I was a kid.
Bien, donc les choses ont changé depuis que j'étais petit.
It's a much better range of popular science books now.
Voilà, c'est que à l'heure d'aujourd'hui, on a de nettement meilleurs bouquins de science-fiction basés sur de meilleurs assises scientifiques que à l'époque où j'étais enfant.
Well, one reason why H.G. Wells was so popular at the time was because he was the only person showing you the bottom of the sea, or the Neanderthals, or the far future.
Et alors, par exemple, ce qui fait que, par exemple, H.G. Wells, à une époque, a été populaire, c'est que c'était un des seuls auteurs à montrer le fond de la mer, à montrer des éléments qu'on voyait nulle part ailleurs dans le grand public.
So, but I think now, you know, there's so much great popular science around that. That's another way into science.
Et alors, au jour d'aujourd'hui, effectivement, pour avoir accès à la science, on a évidemment la science-fiction, mais on a aussi la vulgarisation scientifique qui fait que ça, les gens s'y intéressent et vont peut-être lire de la science-fiction à partir de la vulgarisation scientifique ou l'inverse.
Voilà. Eh bien, merci à tous.
Merci.
Pour cette attention. Et merci à Stéphane et à François.
Okay.
Voilà. Et merci, Sylvie.
Because sometimes, you know, after a while you've got a bit tired, but sometimes you've got blanks. And because there's a big effort of memory.
I understand. One time I speak too long.
Yeah, but don't worry.